Bonjour à tous. C'est une découverte que je vous partage cette semaine dans Évasion Romanesque. Le passager sans visage de Nicolas Beuglet, qui est en fait le deuxième tome de ce que je suppose devenir au moins une trilogie, peut-être même une série. Nicolas Beuglet est né en 1974. D'abord journaliste, il commence sa carrière au Figaro étudiant et présente l'info sur Europe 2. Il passe ensuite chez M6 en tant que présentateur d'émissions, puis devient rédacteur en chef et producteur. En 2011, il publie son premier roman sous le pseudonyme Nicolas Kerr, Le Premier Crâne. Il faut attendre 5 ans pour qu'il sorte le premier tome de sa trilogie Geringen. Le Cri remporte un vif succès et surtout le prix Nouvelle Voix du Polar. En 2018 arrive le second volet, Camplot, puis enfin le troisième, L'île au diable, en 2019. La machine est lancée et à la rentrée 2020, on découvre le dernier message qui entame le début d'une nouvelle aventure avec l'inspectrice Grace Campbell. C'est la suite que j'ai lue, installée sur les étals des libraires en septembre 2021. Le passager sans visage et que je vous invite à découvrir maintenant. Grace Campbell est inspectrice dans la police écossaise. Ce matin, elle est chez elle, seule, comme d'habitude. Il y a bien ce gros chat qui tente de s'installer, mais elle ne se sent pas prête d'accueillir un être vivant auprès d'elle. En passant devant son cagibi à la porte blindée, elle se dit que ce serait pas mal de reprendre cette affaire qui lui tord les boyaux depuis tant d'années. Mais après un frisson, elle passe son chemin et procrastine une nouvelle fois. Pourtant, une enveloppe déposée devant la porte de son appartement va précipiter les choses. Au dos de cette enveloppe est inscrit « Tu n'es pas seule à chercher ». À l'intérieur, une seule feuille lui indique un article de journal datant du 14 novembre 1999. Elle ne sait pas qui lui a laissé ce mot, mais il l'a fait tressailler. Il la ramène à sa propre histoire de petite fille, dont elle a consigné chaque article, chaque souvenir, dans ce fameux cagibi qu'elle fuit jour après jour. Kidnappée, séquestrée, attachée, violée, elle avait réussi à fuir son calvaire grâce à un petit garçon à peine plus âgé qu'elle. Mais l'enquête n'a jamais abouti. Pire, l'inspecteur en charge de son affaire a fini par être démasqué comme pédocriminel et enfermé. Elle décide donc de reprendre l'enquête et commence par ouvrir sa boîte de Pandore qui l'amène en Allemagne, à Hamelin, sur les traces d'un conte pour enfants relaté par les frères Grimm. Le joueur de flûte, ce personnage habillé de couleurs, lui fait faire un bond dans son passé. Elle le revoit dans un coin de sa chambre, puis dans son cachot d'infortune, venant la visiter parfois. Deviendrait-elle folle? Pour en avoir le cœur net, elle se rend au musée de la ville médiévale d'Hamelin et aux côtés du directeur du musée découvre d'étonnantes révélations. Alors qu'elle pressait le pas pour sortir, elle entendit Ned Brevcode l'interpeller. « Inspectrice, attendez !» Surprise, elle se retourna. « Écoutez, je dois vous faire une confidence. Autant que possible, cela doit rester entre nous, d'accord ?» Ned Brevcode desserra son col de chemise. « En fait, à titre personnel, je suis convaincue que cette histoire de disparition d'enfants tire son origine du catastrophe bel et bien réelle. Sinon, le récit ne serait pas resté ainsi gravé dans la mémoire collective. Contrairement à ce que l'on dit ici, dans le musée, je pense que les gens de l'époque savaient très bien ce qui était arrivé à leur progéniture. » Grace fut surprise par cet aveu de dernière minute du directeur. S'ils savaient, pourquoi n'ont-ils pas révélé cette vérité? Parce qu'ils ne pouvaient pas la dire. La voix de Ned Brevcode se perdit dans le silence du musée. Les 130 enfants n'ont pas simplement disparu, ils ont été tués. Et celui qui a perpétré ce crime de masse n'était pas un étranger pour les habitants de Hamelin. Vous aviez raison de mettre en doute cette partie de l'histoire tout à l'heure. Il s'arrêta un instant et inspira profondément. Ce fameux joueur de flûte n'était en réalité rien d'autre qu'un meurtrier pervers et probablement pédocriminel. Grace reçut cette assertion comme un coup de poing dans l'estomac. « Mais qui était-ce » demanda-t-elle encore sous le choc. Une personne de pouvoir, forcément, et dont l'identité est clairement révélée dans la représentation que nous avons sous les yeux, dit-il en désignant la copie de l'aquarelle d'Augustin von Morsberg. Il suffit juste de savoir décoder les signes. En 1284, trois comtes, trois frères, résidaient non loin d'ici. Grace ne fut pas longue à répondre. À Koppenbruges, au pied du calvaire? Exactement. Il y est encore d'ailleurs. Cette fois, Grace sentait qu'elle n'était plus très loin de toucher au but, mais il lui fallait remettre dans l'ordre les pièces du puzzle avant de continuer son investigation. Peut-être jusqu'à Coppenbrugge. J'aurais aimé vous aider, mais mener une enquête sur une affaire vieille de plus de 700 ans et de surcroît scellée par le tabou est loin d'être simple. Évidemment, Grace Campbell découvre que le joueur de flûte de l'époque a fait des émules et qu'un réseau pédophile qui sévit encore aujourd'hui s'inspire depuis le XIIIe siècle de la sinistre histoire. Plus dégoûtant encore, elle apprend que sous le couvert de ses pouvoirs d'universitaire, Helmut Kentler a fait passer un nouveau style d'éducation dans les années 70, celui de la liberté sexuelle entre adultes et enfants. Il promeut la pédophilie comme moyen d'émancipation des plus petits. Mais le pire est à venir. C'est un complot qu'elle découvre pour mettre la population mondiale en état de servitude totale. Et elle veut stopper cela avec les moyens qui sont les siens, au péril de sa vie.